On va reprendre. Et ce dictateur est appelé la bête qui sort de la mer. On a vu aussi un faux prophète qui est lui la bête qui sort de la terre. Et avec le dragon, dont il est question aussi, c'est le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan. Ces trois-là forment une espèce de trinité diabolique. Le dragon agissait, le serpent, le diable agissant un peu comme le père, et le faux prophète comme le Saint-Esprit, et l'Antéchrist comme celui qui se met à la place de Christ, donc celui qui se met à la place de Jésus-Christ. On a parlé au chapitre 17 de la chute de Babylone. Et on va continuer au chapitre 18 à parler de la chute de Babylone. Et en fait, le concept de Babylone, c'était une grande ville, les villes les plus puissantes des anciens temps bibliques. Et il en est beaucoup question dans l'Ancien Testament de la ville de Babylone. C'était le royaume de Nabuchodonosor, dont parlait Daniel. Et il y a deux sortes de Babylone. Il y a d'abord la Babylone qu'on a vue au chapitre 17, qui s'appelle la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Et ça fait, on a parlé, ça fait référence à un faux système religieux, une espèce de religion mondiale officielle qui va se mettre en place, une espèce de rassemblement œcuménique. Et Tonio évoquait le fait que déjà maintenant il y a des fois des rassemblements interreligieux entre les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, des papes et des certains grands dignitaires religieux de ces religions traditionnelles se rencontrent pour prier un dieu. Alors on ne sait pas vraiment quel est le dieu auquel ils s'adressent, parce qu'ils ont des conceptions totalement différentes, mais ça fait partie de l'air du temps. Quand vous parlez avec des non-croyants ou des croyants d'autres religions, souvent ils aiment bien dire on aime tous le même dieu. Mais c'est un mensonge, parce que le dieu de la Bible, tel qu'il est décrit dans sa parole, n'est pas du tout le même que le dieu de l'islam, qui est un dieu qu'on ne peut pas connaître, dont on ne sait jamais s'il va nous accepter ou pas. Et cette Babylone religieuse, on va l'appeler comme ça, elle est assimilée à une prostituée, parce que la prostitution, c'est l'idée de l'idolâtrie, de l'immoralité. Et dans la Bible, la fausse relation avec les idoles, c'est souvent assimilé à de la prostitution. C'est une relation impure, c'est une relation qui cherche à retirer des avantages de cette fausse religion. Et cette religion mondiale officielle, qui, je crois, est en train de se mettre en place par certains aspects, elle n'est pas fidèle à Dieu. Et elle est soutenue et encouragée par l'Antéchrist. On a vu ça au chapitre 17. Elle est au milieu de la grande tribulation, l'Antéchrist, qui va d'abord se faire être un chef politique d'un grand charisme, d'une grande apparente sagesse, d'une grande intelligence, va être adulé par toute la planète. On va trouver qu'il est celui qui résout tous les problèmes de la planète, les problèmes monétaires, les problèmes d'embauche, les problèmes de défense, les problèmes de... Vous prenez les thèmes qui sont débattus par nos politiciens aujourd'hui. Lui, il aura la solution à tous ces problèmes. Non seulement il le dira, mais les gens penseront vraiment qu'il a toutes les solutions aux problèmes de la planète. Et en fait, au milieu de cette période de la grande tribulation, qui dure 7 ans, la deuxième partie, ça va être vraiment la période où les catastrophes vont s'intensifier. Il va sortir sa vraie image en essayant de se faire adorer se faire adorer même dans le temple à Jérusalem. Donc on pense qu'il y aura un temple reconstruit à Jérusalem. Il est intéressant de savoir qu'il y a des groupes juifs orthodoxes, religieux, donc qui ont déjà tout un plan pour reconstruire un temple à Jérusalem. Et bien sûr, il y a le danger d'une conflagration internationale, parce que certains pensent que le temple devrait être reconstruit là où est construite une ou deux des mosquées qui se trouvent à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, deux mosquées qui ont été construites au 8e, 9e siècle et 12e siècle. Et donc, bien sûr, si les Juifs commencent à détruire la mosquée à Al-Aqsa pour construire leur temple, on imagine que les Arabes ne vont pas rester tranquilles. Certains disent qu'en fait, non, en y regardant bien, on pourrait les faire cohabiter, l'emplacement ne serait pas au même endroit, l'emplacement historique du temple de Jérusalem. Peu importe, l'Antéchrist va essayer de se faire adorer au milieu de cette période, recevoir l'adoration des hommes. Et en fait, cette Babylone religieuse, elle est vraiment la religion dans son sens le plus mauvais, avec l'accent mis sur les choses extérieures, des rites, et quelque chose qui éloigne vraiment d'une vraie relation d'intimité, d'amour intime avec le Dieu vivant. C'est un contraste complet avec Jésus qui disait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Alors ça, c'est le côté d'une institution religieuse qui a prise sur le monde entier. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la Babylone commerciale, dont on va parler ce soir. Et je vais demander à une première personne de lire les versets 1 à 8.
Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent... pardon. C'est au chapitre
18.
Pardon, Après cela, je vis descendre au ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, et un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. »
On va s'arrêter là. Donc, Babylone, on sait que, historiquement, c'était cette grande capitale bâtie sur l'Euphrate, la grande rivière, l'Euphrate. Il y a beaucoup de références à Babylone. La première, c'est en fait lorsque les hommes ont construit la tour de Babel. C'est le même endroit, la Babel-Babylone. C'était un symbole de la rébellion de l'homme envers Dieu. Dieu avait demandé aux hommes de s'étendre sur la surface de la terre, de se multiplier, de conquérir, d'habiter toute la terre. Et eux, dans leur orgueil, voulaient monter jusqu'au ciel en faisant une grande tour et en restant concentrés. Il a fallu que Dieu multiplie les langues brutalement pour déjouer ce projet d'orgueil humain. Il y a beaucoup de prophéties qui semblent indiquer que Babylone va être détruite pour ne plus être reconstruite. Si vous voulez noter, Ésaïe 13, 19, Jérémie 51. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de cette ville historique qui a encore des ruines? On sait que le dictateur irakien Saddam Hussein, il aimait se faire appeler Nabucodonosor le troisième, et il voulait lui reconstruire la Babylone à l'emplacement antique. D'autres pensent que c'était un nom de code pour désigner la ville la plus puissante de l'époque du Nouveau Testament, comme Babylone avait été une des villes les plus puissantes de l'Ancien Testament, et ça pourrait désigner donc l'église, la ville de Rome, qui était la capitale de l'Empire romain. On sait que Jean écrivait cette lettre de l'Apocalypse, ce texte de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, alors qu'il avait été exilé, qu'il y avait des persécutions terribles contre les chrétiens. Donc il est possible que entre chrétiens, ils aient utilisé le mot de Babylone pour désigner la ville de Rome. Pierre disait dans 1 Pierre 5, 13, parlant de l'Église, « L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. » Et Babylone, ça avait été vraiment l'ennemi juré du peuple juif. C'est eux qui avaient détruit Jérusalem et le temple en 587-586 avant Jésus-Christ. Et maintenant, c'était Babylone, c'était la ville de Rome, c'était l'Empire romain qui persécutait les chrétiens. Une autre hypothèse, c'est de dire qu'en fait, c'est une grande ville qui va exister à la période de la fin des temps. Si c'était notre période, ça pourrait être une grande ville comme New York, Tokyo ou Londres. Mais ce qui compte, c'est de réaliser que c'est un symbole d'un monde où l'argent est roi et où Dieu est le dernier. Et en cela, on peut reconnaître beaucoup de villes modernes, malheureusement. Donc, il y a un ange de la même qualité qui a une grande autorité, qui descend du ciel et qui crie « elle est tombée, Babylone la grande ». Donc, c'est la chute de ce système économique qui rejette Dieu, qui est détruit. Alors, c'est dans un temps qui indique qui se projette dans le futur pour parler du passé. C'est un peu comme on le fait déjà. On dit, certains diront, lundi, quand l'un des deux candidats aura été élu, on peut se placer dans le futur et regarder comme si c'était déjà fait. C'est ce temps qui est utilisé. Donc c'est une prophétie de dire que cette grande ville cette représentation du système économique qui rejette Dieu va être détruite. C'est une destruction soudaine. Hein, c'est tombé, c'est pas les malades, elle va périr lentement, non, c'est tombé. On avait vu dans l'Apocalypse au chapitre 14, verset 8, un ange qui disait « elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite ». Et là, ça pouvait représenter les deux aspects, l'aspect faussement religieux et l'aspect économique qui rejette Dieu. Mais il y avait déjà cette prophétie. Et ce jugement, il a trois raisons. D'abord, cette ville où ce système est devenu démoniaque, c'est une habitation de démons. Elle est infidèle spirituellement, c'est un esprit impur qui séduit par... qui est un repère de tout oiseau impur et détesté. Dans la Bible, les oiseaux sont souvent un symbole du mal. Dans la Genèse, il est question d'un corbeau qui saute s'expose au plan divin de sacrifice. Jésus parle des oiseaux qui viennent manger les graines qui ont été semées, et ça c'est comme le diable. Et ce jugement, donc, c'est parce que le système est démoniaque, il est anti-spirituel, c'est des esprits impurs, et en plus c'est un monde séduit par le matérialisme. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors il est important de clarifier les choses. Et ce passage ne dit pas c'est un péché que de travailler, de gagner de l'argent, mais c'est la façon dont cet argent est devenu une idolâtrie. Et on voit comment dans notre monde, avec toutes les catastrophes bancaires, les problèmes de refinancement, tout ça, l'argent est devenu vraiment le roi. Les gens s'occupent plus de gagner de l'argent que de fournir du travail aux hommes. On voit comment les hommes sont devenus des objets utilisés par l'argent pour faire plus d'argent. Sans entrer dans un débat politique, force est de constater que ce qui mène le monde aujourd'hui, c'est l'argent. Après, certains diront qu'il y a des alliances secrètes entre nations, mais c'est toujours le but apparemment ultime, indépendamment de la dimension spirituelle, c'est de faire du fric, faire de l'argent. Paul disait à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est important de bien lire dans ce passage, c'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux et qui est un péché. C'est pas le fait de gagner honnêtement sa vie, d'être prospère et d'en faire bénéficier les autres. Mais cette Babylone, ce système commercial a vraiment pollué le monde. Et donc Babylone, c'est en quelque sorte le quartier général de la dépravation morale. Les gens qui s'enrichissent le plus ici, ce ne sont pas les producteurs ou les consommateurs, ce sont les intermédiaires. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est vrai que c'est pas ceux qui produisent les biens qui sont généralement riches, c'est pas ceux qui les achètent parce que ça coûte cher, mais ce sont ceux qui les achètent aux producteurs pas chers et qui les revendent beaucoup plus cher aux consommateurs. Quand j'étais gosse, ma sœur aînée travaillait pour une boîte d'import-export et j'étais toujours surpris de voir qu'en fait ce monsieur roulait en Rolls-Royce. Il avait une petite entreprise et ce qu'il faisait, c'était d'acheter des wagons de poulets congelés à Varsovie, de jamais voir la marchandise, mais de les revendre en Italie et de toucher des commissions. Et j'étais gosse, j'avais une dizaine d'années, je ne comprenais pas qu'il ne produisait rien, il ne touchait rien et il roulait en Rolls-Royce parce qu'il faisait du commerce. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un commerçant honnête, mais c'est les marchands de la terre qui se sont enrichis par la puissance du luxe de cette Babylone commerciale. Ça, c'était donc une première voie dans ces premiers trois versets, c'est une voie de condamnation par cet ange. Et puis, il y a une autre voie qui dit, c'est la voie de Dieu, qui parle, c'est une voie de séparation qui dit au verset 4, j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ça nous fait penser à la tour de Babel où les hommes essayaient de grimper jusqu'aux cieux. Et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car il est fort le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Dieu conseille à son peuple, donc aux croyants sincères, à ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, de ne pas rester dans ce système économique, de ne pas être partie prenante de ce système économique dévoyé. D'abord pour ne pas participer à ses péchés, et aussi de ne pas recevoir la punition qui va tomber sur elle. Les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu est patient et il. Des fois, on prend l'absence de punition, l'absence de réaction de Dieu, comme le fait que Dieu n'est pas présent, ou Dieu ne juge pas, ou Dieu se moque de ces choses-là, que ce n'est pas important. Mais c'est, comme il est dit dans Romains, on peut accumuler la colère de Dieu, un peu comme dans un barrage hydroélectrique. S'il y a des orages pendant des semaines, l'eau va s'accumuler, le niveau d'eau va monter, et d'un seul coup, ça peut rompre et dévaster. Ça s'est passé dans les années 60 à Fréjus. Quand vous passez sur l'autoroute, il y a encore une plaque qui rappelle cette catastrophe terrible qui avait fait des centaines des milliers de morts. Un barrage, le barrage de Malpassé, s'était brisé et suite à des trombes d'eau, des semaines de pluie, et le torrent était descendu sur Fréjus et avait tout ravagé en quelques minutes. Et donc, ces péchés se sont accumulés. Et elle va recevoir une punition à la juste mesure, même au double de ce qu'elle a pu faire. Alors ça, c'est de l'arithmétique qu'on a du mal à saisir, mais on peut imaginer que ça veut dire que c'est terrible comme punition. D'autant qu'il y a quelque chose qui est terrible, c'est que dans cette économie, dans ce luxe, dans cette opulence économique, ce système croit qu'il n'a besoin de rien. Elle dit en son cœur, cette Babylone économique, elle dit en son cœur, je suis la reine. Je ne suis pas veuve, je ne verrai point de deuil, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de... Et ça nous rappelle ça peut-être au début de la lettre de l'Apocalypse, lorsque certaines églises étaient jugées parce qu'elles se disaient qu'elles n'avaient besoin de rien, qu'elles se croyaient. C'était l'église de Laodicée notamment qui disait tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, je te conseille moi d'acheter de l'or éprouvé, etc. Donc on peut des fois, parce qu'il y a une certaine prospérité, notamment au niveau économique, penser qu'on n'a rien à craindre, alors que du jour au lendemain, en un seul jour, les plaies peuvent tomber sur ce système, sur cette ville, si ça représente une ville, si ça représente une ville actuelle ou pas. Vous vous souvenez du passage de Jean, le même auteur, qui disait dans la première lettre de Jean, sa première lettre, chapitre 2, versets 15 et 17, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde, là, c'est pas la planète Terre, parce qu'il est dit par ailleurs, dans Jean 3,16 notamment, que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, à ce sens-là, c'est le monde de tous les êtres humains qu'il a créés, qu'il aime. Mais le monde dont il est question ici, c'est, c'est le monde, le système mondial qui rejette Dieu. Le système de pensée, le système philosophique, le système religieux, il y a même des fausses religions qui... des sectes, etc., qui ne reconnaissent pas la vérité de Dieu. Et si on aime ce monde qui rejette Dieu, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu, c'est tout bête. L'amour du Père n'est pas en lui. Et il fait appel à des choses qui peuvent nous attirer dans ce monde, dans ce système qui rejette Dieu. C'est d'abord ce qu'il appelle la convoitise de la chair. Ça, c'est ce qui va satisfaire nos sens. Ça peut être la puissance, ça peut être ce qui satisfait nos passions, que ce soit de puissance, de sexualité, toutes ces choses-là, c'est ce qu'il appelle la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est ce qui va être une satisfaction esthétique. On va aimer certaines choses, on va vouloir être à la mode, on va s'habiller avec chez des designers italiens qui sont les meilleurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et l'orgueil de la vie, on peut penser que c'est tout ce qui est une satisfaction intellectuelle, le fait de faire des études, de comprendre, d'avoir des prix Nobel. Et ces choses-là ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, sauf si elles nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Et souvent, quand on s'adonne à ces convoitises, à cet orgueil, Dieu est loin de nos préoccupations et on ne fait pas sa volonté et on va être détruit. J'aime bien aussi le verset de Galates 6 qui dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est important de ne pas prendre la patience, ce qui est la patience de Dieu par amour, qui attend que tous en viennent à la repentance. Sa bonté nous conduit à la repentance si on réalise un peu qu'il nous bénit, même si des fois on a tendance plutôt à rouspéter. Si on voit toutes les bonnes choses qu'il nous donne, si on est touché par sa bonté, à ce moment-là on va être conduit à lui demander pardon et à s'éloigner du péché. Mais surtout ne pas prendre cette patience pour du laxisme ou de l'indifférence. Vous connaissez la loi du talion qui disait œil pour œil et dent pour dent. Souvent cette loi est présentée comme quelque chose d'impitoyable qui dit on t'a donné un coup de poing, tu dois donner un coup de poing, on t'a enlevé un œil, tu dois arracher l'œil de l'autre. En fait, je crois que vraiment l'intention de l'Esprit Saint dans cette loi, c'est plus de contrôler nos réactions. Parce que si on vous donne un coup de poing dans le visage, vous n'allez pas seulement avoir envie d'en donner un. Vous allez vouloir vous jeter sur l'autre personne et vous venger. Et malgré cela, dans ce cas-là, Dieu invite à la double rétribution. Parce que la rébellion est si grave et que c'est vraiment la rébellion de l'homme qui se croit fort, qui se croit autonome, qui se croit indépendant de Dieu, qui croit qu'avec ses millions d'euros, de dollars ou de yens ou de yen, il peut être aussi grand que Dieu. Verset que j'aime bien aussi, c'est le Proverbe 16-18 qui dit que l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. C'est souvent lorsque les hommes sont les plus orgueilleux qu'ils s'installent dans l'idée qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, que Dieu peut les frapper pour leur rappeler leur arrogance et leur montrer combien ils ont tort. On va lire les versets 9 à 19 si quelqu'un d'autre veut lire. Ne me regardez pas tous, sinon. 9 à 19. Oups.
Tous les trois délateurs qui se sont livrés avec Aladdin, Pitié et Onyx, auront et se remontront à cause de lui, comme ils rendent la fumée de son embarrassement. Cependant, éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la puissante ville. En une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre peurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fer de pourpre, de soie, de carlates, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, comme les rangs en fer et en arbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de produits, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se sont éloignés dans la crainte de ton tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville ». Qui était vêtu de fer, de pourpre et d'écarlate, de paris d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embarrassement. Quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, à la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. »
Voilà, un passage assez graphique, assez terrible. Là, on voit que ce jugement va affecter les rois de la terre, les hommes politiques, va affecter les commerçants, les marchands, et aussi les marins, ceux qui assurent le transport de ces marchandises. Les responsables se sont conduits avec ce système économique, cette Babylone commerciale, à l'inconduite et au luxe, et vont voir la fumée de son embrasement. Verset 10, c'est intéressant, il est dit qu'ils sont retenus à distance par la crainte de son tourment. Et là, certains ont pensé que peut-être ça faisait allusion au danger de radiation atomique si jamais une bombe avait explosé ou quelque chose avait explosé. Mais ce qui est remarquable, c'est que je connaissais ce passage quand un après-midi, le 11 septembre 2001, on m'a appelé pour voir devant la télé les tours des World Trade Center qui tombaient en bougie, qui répandait une fumée incroyable. Et ça m'a rappelé, quand j'ai vu ce spectacle, ça m'a rappelé ce passage. Et je l'ai lu en me disant, bien sûr, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais ce qui peut paraître un peu impensable, qu'en une heure, qu'en une journée, toute cette grande ville puissante, économiquement solide, pleine de millions, de milliards de dollars, et qu'en un instant, quelques heures, ça soit réduit à un tas de cendres fumantes, et que des milliers de personnes perdent la vie. Alors je ne dis pas que ça décrit ça, mais ça montre combien c'est possible aujourd'hui, combien on a centralisé les choses, au point que deux avions dirigés par des terroristes un peu fous peuvent anéantir. Et là aussi, les gens étaient retenus à distance par la crainte que d'autres morceaux leur tombent dessus, ou que... Donc, je suis sûr que certains commentateurs ont dit, ça y est, ça, c'est... Moi-même, j'ai eu ce réflexe de dire, mais ça me rappelle ce passage de l'Apocalypse. Et là, il y a une description des différents commerces qui se passent. Alors, c'est... Il y a des cargaisons. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette description, à votre avis, là ? Nous qui sommes au 21e siècle, il y a des tas de choses très précieuses, mais il y a une chose qui a...
L'informatique,
tout ce qui est
technique.
Ah, la high-tech.
Oui.
C'est vrai que on avait un voisin qui était pilote d'un 747 commercial, donc un cargo transporté, et il disait le plus intéressant, c'est que des fois il remplissait un 747 vide, il n'y avait pas de siège, et c'était rempli de cargaison d'iPods. Et il nous disait la valeur marchande du qui est transportée est assurée pour des milliards de dollars. Parce qu'un petit iPod, ça coûte 500-400 euros, je ne sais plus à l'époque ce que ça coûtait. Mais d'imaginer qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas une boîte, il n'y en a pas deux boîtes, il y en a tout un 747. Et il transportait, et là je disais, oui, ça vaut son poids d'or, donc ça peut être la cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, donc tout ce qui est très riche. Et c'est vrai qu'à l'époque, si Jean voyait cette vision, il ne voyait peut-être pas à l'intérieur des boîtes que c'était des MacBooks ou des écrans plats ou des... Mais on voit qu'il y a vraiment toutes les richesses, les choses qui étaient précieuses à l'époque, c'était rempli aussi bien en métaux précieux, en bijoux, en nourriture, les choses délicates, les remèdes, et tout est détruit. Et les marchands étaient dans le deuil. C'est intéressant de voir que sans doute ces marchands ne pleuraient pas parce qu'il y avait des petits-enfants en Inde qui travaillaient dur pour faire des objets qu'ils pouvaient vendre très cher, mais quand ils perdaient leur cargaison de télévision, là ils pleurent plus pour les choses, pour le matériel, que pour les personnes. Et ça c'est impressionnant. Et je dis, on est tout aussi capable nous-mêmes de pleurer plus ce qu'on perd que d'avoir de la pitié ou de la compassion pour des gens qui n'ont rien. Les gens qui perdent... On a une sœur dont la maison... dont la maison a brûlé, et du jour au lendemain elle s'est retrouvée sans aucune ressource matérielle. Mais la chose la plus dure pour eux, c'était les photos, les souvenirs qui ne peuvent pas être remplacés. Quelqu'un d'autre récemment a fait, on parlait de quelqu'un, c'est la maman de Donovan, le mari de Karine, qui est en Italie. Sa maman vient aussi de perdre tout dans l'incendie d'une maison. Et là, c'est à une échelle bien plus grande. Et tout le monde voit cette cité, cette grande ville, ce système qui est en flammes, qui tombe, c'est l'écroulement du dollar babylonien, de l'euro. Ils sont complètement perdu. Malheur, c'est la chose la plus terrible. Ils ont perdu cette richesse qu'ils croyaient posséder, cette richesse sur laquelle ils avaient mis tous leurs espoirs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces choses, ce n'est pas des produits de première nécessité. Ce n'est pas du lait, du pain, de la farine. C'est des objets de luxe dont il est question. Et là, on voit la vanité de la recherche des richesses. Jésus lui-même disait « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ou « Que donnera un homme en échange de son âme ?» Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. On voit que toutes ces richesses, c'est vain. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir le fruit d'un travail honnête. C'est l'amour de l'argent. Et là, tous ces gens étaient complètement amoureux de ce système économique, de ces ressources, de ces richesses, de ces produits de luxe. Ils étaient complètement effondrés de voir cette destruction de ce système, de cette ville, si c'était une ville. On va passer au verset 20. Quelqu'un veut bien lire 20 à 24 ? Nathalie, tu veux je te demander si tu vois clair là ? Je sais pas si... Ça, c'est clair là pour vous ?
Oui. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
Alors c'est intéressant, on vient de voir cette chose apocalyptique, hein, c'est le cas de le dire, apocalypse, c'est comme ça que souvent on prend le terme d'apocalypse, et de voir ces visions de choses, de cataclysmes sans précédent qui se passent devant les yeux des témoins. Au ciel, où se trouve l'Église et les saints de l'Ancienne Alliance, il est dit « Réjouis-toi sur elle, ciel, vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » C'est vrai qu'on n'est pas appelé à se réjouir du malheur des autres, mais on est appelé à ne pas se faire justice soi-même. Mais lorsque la justice est appliquée par Dieu, lorsque les méchants reçoivent leur punition, Dieu nous appelle à nous réjouir parce que la justice est faite enfin. Et pour symboliser cette chute terrible de la Babylone qui est tombée, un ange prit une pierre semblable à une grande meule et il la jette dans la mer. Et vous vous souvenez de Jésus qui disait dans Matthieu 18 que si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ses petits-enfants qui venait à lui, un de ses petits qui croit en moi, il serait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la terre. Vous savez, dans les films, on dit que la mafia met des semelles en béton à leurs adversaires, c'est-à-dire qu'ils les font couler au fond de l'eau. Jésus et ce passage nous disent que oui, là, une punition terrible, ce serait d'être forcé à disparaître au fond de l'eau. Il va y avoir aussi la fin du... On ne trouvera plus la grande ville. Certains pensent que les prédictions, les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient que Babylone ne serait jamais reconstruite, qu'elle serait détruite à jamais, qu'elle deviendrait un repère pour les chacals et pour les hyènes, ça peut se passer à cette période-là parce qu'il existe encore, même si ce n'est pas une ville officielle, il existe encore des ruines et on peut retrouver la ville de Babylone. Mais là, on ne la trouvera plus après cette grande tribulation. Il n'y aura plus de musique, Il n'y a plus de musique de harpe, de guitare électrique, de musiciens, de joueurs de flûte, de trompette, plus de jazz, plus de musique classique. Il n'y aura plus d'activité, plus aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus le bruit des voitures, le bruit de la meule, le bruit de l'activité. Ce matin, c'était sympathique. Quelques-uns sont retrouvés pour prier à 7 heures. Et c'était le calme plat dans le quartier. Et là, c'est un peu ce genre de choses. Il n'y aura plus du tout du bruit de l'activité économique dictée par cette Babylone économique. Et il y aura l'obscurité. C'est vrai qu'une des caractéristiques de la civilisation, c'est que la nuit, les lumières brillent et les gens continuent à travailler ou à s'activer. On n'entendra plus l'époux et l'épouse, il n'y aura plus de vie de famille dans ces grandes villes. Parce que toutes ces nations ont été séduites par les sortilèges. C'est un peu comme, c'est le mot qui, je crois que Tony en avait parlé, c'est le mot qui nous donne le mot de pharmacie, qui veut dire un peu toutes les drogues. Et c'est vrai que cette activité économique qui se jette sur l'argent, c'est comme une drogue. Je ne sais pas si pour certains, vous avez été déjà dans une très grande ville, que ce soit Londres, même Paris, New York est particulier, tout particulièrement. Il y a une vibration de l'activité économique, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours, les gens se lèvent, se couchent, on peut faire des films en photo accéléré, et on voit que c'est une activité incessante, et Dieu est loin du cœur des gens. Et non seulement ça, mais on a trouvé chez cette Babylone, le sang des prophètes, des saints, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et c'est vrai qu'on a déjà vu dans l'Apocalypse les saints qui sont persécutés, ceux qui veulent rappeler que Dieu existe et qu'il aime les hommes et qu'il veut avoir une importance dans leur vie. Voilà, donc ça c'est en quelques minutes, la description de la fin de ce système commercial qui rejette Dieu, qui, il faut le dire, est souvent le... On sait aussi que du jour au lendemain, il peut y avoir un krach financier, un krach boursier. Il y a quelques années, on est passé à côté d'un krach boursier. On en subit toujours les conséquences économiques. Certains disent que ça pourrait repartir de plus belle. C'est très possible. On voit que le système économique qui est devenu une idolâtrie en faisant de l'argent le dieu du monde, on sait qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si on sert Mammon, on ne peut pas servir Dieu et inversement. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce passage ? Alors encore une fois, je ne prends pas une décision à savoir si c'est New York ou Tokyo ou Londres ou Carros ou si c'est simplement le système économique mondial tel qu'on le voit en pratique aujourd'hui. Mais il est certain que Dieu va s'opposer à ces idolâtries que sont la fausse religion et l'amour de l'argent. Il y avait un passage où il était question des gens qui sont victimes de ces commerces. Ça aussi, on pourrait parler de tous les trafics qui sont faits avec les êtres humains, que ce soit pour le travail au noir, pour le travail pas cher, les immigrés qu'on traite comme des chiens, tous les problèmes de traite, de prostitution, de prostitution des enfants, tout ça, ça participe malheureusement de ce système où l'argent est roi. Juste pour terminer, je dis que j'avais terminé, on reprendra ça, après on va prendre un petit break, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est intéressant parce qu'on a parlé de ce système économique corrompu qui rejette Dieu. Et il faut remarquer que nous-mêmes, on est exposés à ce système économique et que nous-mêmes, on peut tomber dans le piège de convoiter des choses matérielles très facilement. C'est un des moteurs de l'économie aujourd'hui, c'est justement la publicité qui nous fait penser que tant qu'on n'aura pas le dernier modèle de l'ordinateur, du téléphone, etc. Et Nancy me regarde parce que j'ai ce problème aussi. Tu veux laver tes... avec une machine à laver, ma chérie ? Et donc, c'est pas de dire « Oh là là, les vilains, ils sont intéressés par les choses matérielles », c'est de nous-mêmes regarder notre cœur et prier. Et j'avais trouvé dans un commentaire quelques points pour éviter d'être entraînés nous-mêmes dans ce système corrompu. Premier point, c'était de toujours considérer les gens plus importants que les choses matérielles. Alors on peut dire, mais moi j'aime les gens, mais est-ce qu'on aime tous les gens? Est-ce qu'on accorde la même importance à tous les gens qui se présentent à nous, qu'on a l'occasion de rencontrer? De réaliser que, comme le disait Jésus, ce qui est le plus important, c'est l'âme, c'est la personne, c'est pas les choses qu'on peut avoir. Deuxième point, c'était se garder de tout orgueil dans nos propres programmes, projets, succès. Parce que là, on rejoint cet orgueil de la vie, de dire qu'on pense que parce qu'on accomplit certaines choses ou parce qu'on possède certaines choses, ça prouve notre valeur et ça satisfait notre orgueil. Si on veut faire mieux que les voisins, avoir une voiture plus récente qu'eux, on va avoir de la graine de Babylone en nous. Troisième point, c'était de ne pas permettre de compromis entre notre façon de vivre et la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Une bonne façon pour les chrétiens de se prémunir de cet esprit de matérialiste, c'est justement de respecter l'idée de participer au soutien des églises par la dîme, de donner pour les missions, d'être généreux avec nos ressources. Un quatrième point qui rejoint le premier point, c'est d'accorder plus d'importance aux gens qu'à l'argent. Cinquième point, faire ce qui est bien quoi qu'il nous en coûte. C'est vrai que des fois on va mettre ses réserves morales ou ses critiques de quelque chose qui n'est pas bien dans notre mouchoir pour pas se fâcher avec le patron qui nous demande de faire des choses qui sont mal. Un dernier point, c'était de participer à des activités qui produisent des services, des produits qui font du bien vraiment aux gens autour de nous. Pas seulement des choses vaines pour répondre aux désirs. Je me souviens, maintenant une vingtaine d'années, j'avais cherché du travail dans la région et j'avais eu une offre de travailler dans l'informatique au casino de Monte-Carlo. Quelque part, ça me posait un problème. Je me disais, alors c'est vrai, d'un côté, c'est l'argent du diable, on peut en prendre et l'utiliser pour nourrir une famille chrétienne et peut-être faire des œuvres. Mais il y a toujours ces questions qui se posent quand on veut essayer de vivre en accord avec notre morale chrétienne, nos convictions chrétiennes, plus exactement. Donc, je crois que c'est, encore une fois, l'humilité vis-à-vis de la puissance de séduction du matérialisme, de l'argent. Et des fois, on se dit que ce n'est pas un problème qui se pose à moi, mais si on y réfléchit bien souvent, c'est une décision qu'on a à prendre. Se faire plaisir en s'offrant le dernier Mac, dernier cri, ou prendre un ordinateur moins... On ne va pas parler de choses qui peuvent... vous touchez de trop près peut-être, mais c'est des réalités quotidiennes. Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources? Est-ce qu'on les met au service de Dieu? Ou est-ce que, encore une fois, il n'y a pas à être légaliste, mais simplement demander l'aide de Dieu? On passe au chapitre 19. On va voir la première partie, les versets 1 à 10. Est-ce que quelqu'un voudra lire ce passage, 1 à 10?
Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia », et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie.
Amen. Merci. Ce passage commence par des Alléluia. Une voix forte dans le ciel qui crie Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Que veut dire le mot Alléluia en hébreu?
Louer à Dieu. Louer à Dieu, non?
Louer soit Dieu. C'est le mot de Hallel. Les psaumes 113 à 118 s'appellent le grand Hallel, proclame les louanges de l'Éternel. Les psaumes 145 à 150 constituent ce qu'on appelle le petit appel. Hallel, pardon. Et chacun de ces psaumes commence et finit par un Alléluia. Ça, c'était le petit Hallel, c'était les psaumes des montées, ainsi appelés, parce que quand on venait à Jérusalem, qui est sur une colline assez haute, pour les trois fêtes, on chantait ces psaumes. C'est intéressant de réaliser qu'en fait, dans le Nouveau Testament, à part ce passage qu'on vient de lire, le mot Alléluia n'est jamais cité. Dans l'Ancien Testament, il est souvent cité dans les psaumes, comme on l'a rappelé. Mais c'est ici que ça se concentre, c'est la version grecque, avec sans le H, on écrit des fois pour dans l'Ancien Testament. Et tous ces Alléluia, en fait, célèbrent le triomphe de Dieu, sa puissance, sa toute-puissance, c'est pour dire Dieu le plus fort, Dieu, gloire lui soit rendue, louange à Dieu. Le premier, donc, se trouve au verset 1. Le salut, la gloire, la puissance sont des choses pour lesquelles on peut louer Dieu, le remercier, l'honorer, s'incliner devant lui. Parce que le salut, ça suscite chez nous la gratitude. On est reconnaissant que Dieu nous ait permis d'être sauvés de la damnation éternelle. Le mot de gloire, c'est le respect, l'attitude de révérence qu'on a naturellement devant quelqu'un de merveilleux, de puissant. Et puis la puissance sont à notre Dieu, c'est la confiance absolue qu'on peut avoir en Dieu devant les aléas, les incertitudes de la vie. On sait qu'on peut vraiment glorifier Dieu de cette façon. Il est dit aussi, ils disent Alléluia parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Satan essaye toujours de nous faire douter de la justice de Dieu. Quand un problème nous arrive, quand une difficulté survient dans notre vie, Satan nous dit, tu vois bien que Dieu t'aime pas, si t'aimais vraiment, ou alors c'est parce que tu as du péché que tu dois demander pardon, ou que Dieu en a marre de te pardonner, Dieu. Mais on sait que on peut faire confiance, et ça c'est un des passages qui nous dit que Dieu est parfaitement juste, et quand on a tendance à questionner la justice de Dieu, il nous est dit qu'on ne doit jamais mettre en cause des choses qui sont annoncées clairement par des choses que l'on suppute, des choses que l'on suppose. C'est très important de faire confiance et d'être assuré de cette justice de Dieu. On peut dire que, contrairement aux hommes, il y a tellement d'erreurs judiciaires possibles, et sans doute parmi nous, il y en a qui ont été victimes de mauvais jugements, pas nécessairement en justice, mais même des personnes qui les ont accusés de choses qu'ils n'avaient pas faites. Dieu, il est juste parce que, premièrement, il juge en parfaite connaissance de cause. Il voit dans nos cœurs, il voit les motifs, il voit les raisons, il voit notre histoire. Je me souviens, Nancy, quand Sébastien et Tonio étaient à l'école communale, elle avait eu l'occasion de donner des cours d'anglais ou d'amener des enfants de l'école dans certains rendez-vous sportifs. Et il y avait en particulier un petit fils d'immigré qui était mal vu par ses collègues, par les enfants à l'école, par les professeurs qui le trouvaient insupportable. Et Nancy avait eu l'occasion de parler avec ce jeune et elle avait réalisé qu'en fait il vivait à l'assistance publique, il n'avait plus ses parents, il avait un parcours très difficile. Et elle disait, une fois qu'on connaît ce qu'il a déjà enduré, on est prêt à accepter beaucoup de ses attitudes difficiles parce qu'on voit en connaissance de cause un peu. Et pour les éducateurs ou les gens qui savent ça, on sait que ça fait une différence de connaître les circonstances, même si ça n'excuse pas tout. Mais lui, Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît l'histoire parfaitement. Deuxième point, c'est que il n'a pas de préjugés. Il est pur, il n'a pas de parti pris. En ce moment, c'est peut-être la chose la plus difficile que de suivre cette campagne. C'est de voir que les gens ont pris parti pour un parti. Ils ont déjà choisi. Et quoi qu'il puisse être débattu, on sait qu'ils vont critiquer l'autre et se complimenter. Et c'est tellement caricatural et tellement systématique, à la fin on en a marre d'écouter leur discours, parce qu'il y a un parti pris, il y a des préjugés, on diminue l'autre est un imbécile, nous on a toute la science, on n'écoute pas l'autre, c'est pas le cas avec Dieu. Dieu en plus a la sagesse pour savoir quel est le jugement à appliquer à telle situation. Souvent, nous, on va réagir violemment, on va avoir une attitude d'une correction disproportionnée avec la faute. Ça, c'est toujours difficile pour les parents, des fois, de ne pas réagir dans la colère, de s'emporter avec un enfant, alors qu'on fait passer des frustrations qui n'ont rien à voir avec la situation, avec le cas de l'enfant, mais on va exploser. Dieu ne fait pas ce genre de choses. C'est exactement ce qu'il faut, c'est comment nous attirer à lui. Et aussi, un quatrième point pour lequel les jugements de Dieu sont justes, c'est qu'il a la puissance et les ressources pour appliquer ses jugements. Je suis toujours surpris de voir qu'on n'a pas la peine de mort en France, mais maintenant c'est soi-disant remplacé par la prison à perpétuité. Et la prison à perpétuité, en fait, c'est au maximum 20 ans et avec des remises de peine. Alors, je ne dis pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose, mais on n'a pas les ressources pour faire appliquer les jugements. Il n'y a pas assez de place en prison. On veut aussi peut-être encourager les personnes qui sont détenues à avoir un intérêt à se conduire de façon correcte. S'il n'y a que le désespoir, c'est peut-être pas très, très sage. Mais Dieu, lui, il peut faire appliquer ses jugements. C'est vrai que quand on est pris en faisant quelque chose de mal, de répréhensible, la première chose, c'est qu'on espère ne pas se faire prendre. C'est hier soir, je crois que j'ai passé un feu orange qui était bien mûr. Et secrètement, j'ai dit, j'espère qu'il n'y a pas une caméra qui a pris une photo de moi. J'ai espéré ne pas être pris. Si on est pris, à ce moment-là, on espère avoir la faveur des juges ou des gens supposés appliquer les sanctions. On espère avoir la clémence. Et je me surprends des fois, par exemple hier soir, quand j'ai passé ce feu rouge, dans ma tête, j'étais prêt à donner une explication aux policiers qui m'auraient arrêté. Je disais, oh, ben, j'étais dans l'élan, j'ai pas voulu freiner brutalement parce que je voyais une voiture qui venait vite derrière. J'échafaude déjà dans mon esprit pervers des excuses pour justifier ma désobéissance. Donc on espère d'abord ne pas se faire prendre. Si on se fait prendre, on espère avoir la clémence. Si on est condamné, on espère qu'on aura une remise de peine. Qu'au bout d'un moment, les juges vont ramener la punition à quelque chose de moins long, de moins grave, de moins cher. Et puis si jamais on est vraiment pris et enfermé, à ce moment-là, on espère pouvoir s'évader. Et on a toujours ce désir, mais avec Dieu, c'est pas possible. Dieu fait appliquer ses jugements et on n'a pas d'échappatoire, on n'a pas de façon de s'en sortir. La grande prostituée corrompait la terre par son inconduite, verset 2. Un des péchés les plus graves, c'est pas seulement de pécher soi-même, mais c'est d'encourager les autres à pécher. C'est ce qu'on disait lorsque Jésus disait « Malheur à celui qui va détourner un de ses enfants de moi, il vaudrait mieux qu'il ait une meule autour du cou et qu'on le jette dans l'eau. » Et on a vu ça dans verset 21, une grande meule autour de Babylone, du cou de Babylone. Tonio faisait remarquer justement qu'il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un système plutôt que d'une ville, parce que lorsqu'il est dit au verset 21, au verset 22, 23, que toutes les nations ont été séduites, etc. C'est quelque chose de plus global que seulement une ville comme New York ou quelque chose, et je suis d'accord avec cette vue. Le deuxième Alléluia, c'est au verset 3. Ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles. Ça nous rappelle le passage de l'Apocalypse qu'on a déjà commenté. Chapitre 14, verset 11. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est donc encore une fois le triomphe de Dieu, car une punition terrible est appliquée. Troisième Alléluia, c'est le verset 4. Il y a un triomphe de Dieu, parce que là, en fait, le verset 4, c'est une citation du psaume 134 qui est reprise au verset 5. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. C'est un triomphe pour Dieu, pour lequel on peut lui dire Alléluia, parce que les promesses de la Bible sont accomplies. On peut dire Amen, ça veut dire en vérité, c'est bien la volonté de Dieu est accomplie. Et puis, verset 6, il y a le quatrième Alléluia. Car le Seigneur Tout-Puissant a établi son règne. C'est le mot qui veut dire en grec celui qui contrôle toute chose. On peut vraiment dire Alléluia à Dieu qui triomphe en venant vraiment régner. On sait que on a prié des milliards de fois le Notre Père, que ton règne vienne. Là, c'est l'accomplissement de cette prière. Dieu répond. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Pantocréator en grec, le Créateur de toutes choses, qui peut tout faire, a établi son règne. Et les trois derniers versets nous parlent des noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, donc on peut se réjouir, être plein de joie, rendre gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues, sont arrivées, et son épouse s'est préparée. Alors, en général, on aime tous être invité à un mariage, célébrer un mariage. Il y a toujours beaucoup de joie, c'est une occasion de bonheur, d'espérance, de bonnes choses. Et d'habitude, on a nos yeux fixés sur qui ? La mariée, plus que sur le marié. Hein. Quand on fait des mariages ici, on a célébré quelques-uns. En général, le marié est entré parmi les gens qui sont là pour célébrer. Mais il y a un moment où on attend la mariée qui arrive un peu plus tard, qui s'est cachée, la musique intervient. Mais là, c'est nos yeux se fixent d'abord sur l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée, il dit au verset 7, mais c'est lui d'abord parce que c'est lui qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a vaincu l'antéchrist. L'agneau qui est tout puissant, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Ça, c'est l'épouse qui a habillé ainsi. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Donc on reparle de cette célébration du mariage à l'époque des temps bibliques. Et Tony en avait parlé. C'est très, très particulier par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est très important de comprendre comment ça s'articule. C'est en fait, si on a une bonne compréhension, une bonne connaissance historique du mariage biblique chez les juifs, du mariage chez les juifs au temps de la Bible, beaucoup des descriptions de l'Apocalypse, même au niveau de la chronologie de certains événements, il n'y a plus de question. Si on connaît cette succession, et même au niveau de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, quand on connaît ces événements qui constituent un mariage, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est bien ça. Alors, je ne dis pas que je ne veux pas chercher à vous convaincre si vous avez d'autres, mais je vous demande vraiment de bien prêter attention à cette description qui est remarquable. D'abord, il y avait un mariage en Israël, c'était trois événements. Le premier, c'était ce qu'on appelait les fiançailles, on pourrait appeler ça les fiançailles. Ce n'est pas du tout les fiançailles qu'on a à notre époque, où c'est quelque chose d'assez rare, qui se pratique un peu chez les chrétiens, qui se disent c'est quelque chose de biblique, on va se fiancer avant de se marier, tu finis tes études. Généralement, mon expérience a été que ces fiançailles sont rapidement abrégées, parce que les jeunes gens en ont assez de ne pas pouvoir se donner l'un à l'autre complètement, physiquement. Mais à l'époque, les fiançailles, ça se passait avec des enfants. On ne laissait pas les jeunes gens et en proie à leur caprice, à l'adolescence ou plus âgée, choisir pour eux-mêmes. Les parents des enfants arrangeaient les mariages. Alors c'est une pratique qui nous semble vraiment barbare, presque, et pourtant c'est une pratique qui subsiste dans certaines cultures et qui ne semble pas donner des résultats si terribles que ça. Alors bien sûr, tout dépend des parents qui vont chercher une compagne ou un compagnon pour leur enfant. Mais je sais qu'on a eu des très bons amis qui venaient de l'Inde quand on était étudiant en école biblique au Canada. Et ils expliquaient à tous les jeunes gens qui étaient complètement estomaqués, révoltés presque, qu'en fait ils avaient fait l'objet d'un mariage arrangé, que le papa de la mariée connaissait le papa du jeune homme, et qu'il pensait qu'il pourrait faire un couple qui s'entendrait bien. Et souvent c'est basé sur des phénomènes de société, sociologie, qui sont des fois plus solides que l'amour au premier abord qu'on rencontre en voyant une jolie jeune fille sur la promenade des Anglais. On ne sait pas du tout d'où elle vient, quel est son arrière-plan, quelle est sa culture, son niveau d'études, etc. Et donc ces rencontres étaient orchestrées par des parents qui voulaient, bien sûr, si les parents cherchaient à faire de l'argent ou à pouvoir hériter d'un terrain, à ce moment-là tous les risques étaient permis, mais s'ils avaient vraiment l'intérêt de leurs enfants, ça pouvait donner des fiançailles, des mariages qui n'étaient pas mauvais en eux-mêmes. Donc là, les parents établissaient ensemble une alliance de mariage. On établissait même un niveau de dot, un paiement, il vaut 5 chameaux, c'était fonction des revenus et du niveau social. Mais dès que cet agrément, cette alliance avait été engagée et signée, les deux jeunes gens, les mêmes deux enfants, étaient liés dans cette relation de fiançailles. Et il fallait l'équivalent d'un divorce pour en sortir. Vous vous souvenez que Marie et Joseph avaient considéré de répudier sa femme. Ils n'avaient pas encore consommé leur mariage. Et donc, il était prêt à briser l'alliance qui avait été déjà engagée entre eux. Alors, on n'a pas les détails, mais ça se rapporte à ce principe de la première partie du mariage. Une fois que le jeune homme et la jeune fille avaient atteint l'âge du mariage, je ne sais plus exactement quel âge c'était, la nubilité, en France il y a un âge qui a baissé de plus en plus, je crois, mais Vous ne pouvez pas vous marier à 10 ans, mais peut-être à 13 ans pour une fille et 15 ans pour un garçon, je ne sais plus, avec l'accord des parents en France. Mais le jeune homme devait aller chercher sa future chez ses parents. Tu nous avais expliqué ça. Tu me corriges s'il y a des choses à corriger. Et c'est lui qui venait chercher chez le parent de la mariée, de la future mariée. Il venait la chercher, il la ramenait chez lui. Il y avait une cérémonie où ils s'acceptaient l'un l'autre officiellement. Et il pouvait consommer le mariage. Et à ce moment-là, ça déclenchait une célébration de 7 jours où les amis et la famille faisaient la fête pendant 7 jours. Ça coûtait très cher. Déjà, un mariage qui dure une soirée ou une journée, c'est toujours une grosse dépense. Mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre à faire quoi, dans les petits villages. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma. Donc quand il y avait un mariage, c'était l'événement de l'année. Et on faisait durer le plaisir. Ça durait 7 jours. 7 jours pendant lesquels on ne voyait pas la mariée. Et le marié, lui aussi, était retourné pour être auprès de sa femme. Et seulement à la fin de ces 7 jours, il revenait et il montrait... Et se montrer à la foule des gens qui avaient fait la fête. Et puis là, ils étaient mariés et ils reprenaient le cadre d'une vie de marié normal, entre guillemets. Mais il y avait ces trois épisodes. Et ça, quand on voit qu'en fait, Jésus, dans Éphésiens 5, il nous est parlé du fait que le mariage entre un homme et une femme, c'est en fait une illustration de la relation entre Jésus et l'Église. Et je suis convaincu, il n'y a pas de justification biblique, mais je pense qu'en fait Dieu a inventé la sexualité, a inventé le mariage, pour nous donner une idée de ce qu'est la relation intime que Dieu va avoir avec chacun de nous. Parce qu'il n'y a pas de relation plus intime, où on partage plus, où on se livre, on se révèle à l'autre, et c'est le genre de relation, en tout bien, tout honneur, bien sûr, que Dieu va avoir avec chacun de ses enfants. Et dans Éphésiens 5, il est dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le prix de la dot que Dieu a dû verser, que Jésus a versé, c'est sa propre vie, son propre sang. Dans 2 Corinthiens 11, Paul nous dit qu'il veut présenter l'Église comme une vierge. Il a à cœur de... Voilà. 2 Corinthiens 11, 2. Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc c'est cette idée que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est assez surprenant pour nous qui avons l'habitude de voir l'Église et de remarquer tous ses défauts. Le fait qu'elle est bourrée d'hypocrites, qu'elle ne fait pas les œuvres que Dieu voudrait qu'elle fasse. Ça, c'est la vision que les hommes ont de l'Église, mais la vision que Dieu a de l'Église, quand il voit les chrétiens remplis de la justice de Jésus, l'Église est comme une belle épouse, comme une belle fiancée. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'une future mariée qui se présente pour le mariage. Je citerai personne, mais j'ai en souvenir des moments spéciaux justement avec ce concept de la beauté d'une future mariée qui s'est parée pour son époux. Et là, il nous est dit que cette épouse, oui, alors juste un petit retour en arrière, l'idée que Jésus, il est venu chercher son épouse, qu'il l'a emmenée pendant 7 jours ou 7 ans au ciel, avant de revenir la présenter à la fin, ça correspond complètement à la vision pré-tribulation de l'enlèvement de l'Église. Alors, vous êtes libre de ne pas adhérer, mais pour moi, c'est difficile quand on connaît les coutumes qui sont... Alors, c'est pas des coutumes qu'on a inventées pour que ça colle, c'est des coutumes qui sont documentées par ailleurs. Il y a toute une tradition rabbinique. Aujourd'hui encore, il y a certains de ces étapes qui sont faites. Peut-être que deux sont assemblées en une, mais verset 8, il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Ça, c'est un contraste énorme avec la grande prostituée du chapitre 17, qui était la mère des prostituées, des abominations de la terre, qui était laide, et elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Ça, c'est le verset 4 du chapitre 17. Elle a plus, c'est le titre qui lui est donné, de grande prostituée, que cette jeune femme de toute beauté, qui de plus est vêtue de fin lin, d'un tissu très beau, éclatant et pur. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il est expliqué que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors on sait, les saints, ce sont les croyants, ceux qui ont accepté de mettre leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Ils ne peuvent pas mériter la justice, mais s'ils participent à Jésus-Christ, leurs œuvres peuvent être justes. On sait que Ésaïe disait que toutes nos œuvres de justice sont comme des torchons sales dans Ésaïe 53, ou je ne sais plus exactement le numéro, l'adresse. Les œuvres, les bonnes œuvres que l'on fait inspirées par Dieu, pas des œuvres que l'on fait pour mériter l'amour de Dieu, mais une fois qu'on a reçu son amour et qu'on veut l'honorer en faisant du bien autour de nous, c'est quelque part, ça permet de participer au trousseau de la mariée. Il y a cette vieille expression en français de dire que la mariée devait préparer son trousseau. C'est-à-dire qu'elle devait préparer des vêtements brodés, des draps, des vêtements qu'elle allait porter, qu'ils allaient porter dans le mariage. Et là, en fait, on peut, par nos bonnes œuvres inspirées par Dieu, faites selon la volonté de Dieu, sans vouloir attirer la gloire sur nous, ces œuvres vont être ce qui va vêtir de façon spectaculaire du lin éclatant et pur. Et ça donne une toute autre perspective à faire le ménage le samedi matin à l'église. D'un seul coup, on voit qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de quelque chose qui est sans aucune mesure quelque part. Alors, il y a l'épouse, qui est l'église, d'après les passages qu'on a rapidement évoqués. Et puis, il y a des invités à ce festin des noces de l'agneau. Alors la question, c'est si c'est pas les... Ça ne peut pas être l'Église, puisque l'Église, c'est la mariée. Qui sont ces invités? Alors certains pensent, et je pourrais en penser un peu la même chose, parce que je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être. Ça peut être les saints de l'Ancienne Alliance. L'Église étant l'Église depuis la Pentecôte. Mais une chose est sûre, c'est que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc soit on y participera parce qu'on sera nous-mêmes l'épouse, C'est difficile, je sais, pour les hommes de s'imaginer comme étant l'épouse de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, c'est, on a toujours ce raisonnement sexué d'homme, de femme, de mari, de femme. Là, il est question d'un peuple qui va avoir une relation privilégiée d'intimité complète avec Jésus-Christ. Et c'est tellement merveilleux, c'est tellement surprenant qu'il dit ce sont les paroles véritables de Dieu. Autrement dit, je ne vous raconte pas des histoires, c'est vraiment ce qui va se passer. Et Jean est tellement émerveillé qu'il veut adorer, l'ange. Il se fait reprendre. Garde-toi d'adorer un ange, une créature. Je suis ton compagnon de service, je suis quelqu'un qui sert Dieu, je ne suis pas celui que tu dois adorer. Adore Dieu. Puis un dernier verset qu'on va commenter juste rapidement. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est une façon de dire que si vous entendez des prophéties qui n'honorent pas Jésus-Christ, qui ne rendent pas témoignage de lui, de son œuvre, de son caractère, ce n'est pas des vraies prophéties. Tout témoignage, alors ça peut être l'esprit de la prophétie parlant des fois du livre de l'Apocalypse, mais j'ai tendance à penser que c'est toutes les prophéties vraiment bibliques ou vraiment inspirées par Dieu vont rendre témoignage de Jésus, vont honorer Jésus et le glorifier. Ça peut être en prévoyant que quelqu'un fasse des œuvres pour lui, ça peut être en s'attendant à voir son œuvre dans un pays, ça peut être, mais si Jésus est absent de la prophétie, à ce moment-là, c'est des prédictions, c'est des horoscopes, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va s'arrêter là et on verra la semaine prochaine que Jésus revient au verset 11 et on verra pourquoi c'est Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Il y avait un concours à Cathédrale pour Pâques.
Oui.
Il y a quelques chose qui viennent d'apprendre.
Oui.
Il a gagné 150 euros.
Oui.
Et eux voulaient qu'il y ait des places dans la machine à sous. Normalement, pour avoir la loi, ça a été dit, etc. Mais...
Du moment que tu as donné la dîme, monsieur, ça va. Ça, c'est Babylone, ça. Babylone commercial.
Mais normalement, ce n'est pas des fois qu'il y a des gens. Normalement, ça ne voit pas la loi. Hein.
D'autres choses?
Le verset 8, je trouve que c'est bien parce qu'il dit il lui a été donné de ce métier. Donc,
très bonne remarque. C'est pas la rien mérité. Ouais. C'est Dieu qui nous permet, voilà. Qui nous donne sa justice et qui nous permet de vêtir l'Église, la belle épouse qui s'est préparée.
C'est dans Ésaïe 64 que tu cherches.
Voilà, Ésaïe 64. Merci. Tu te rappelles le numéro 64, 10. Tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Et en fait, le terme vêtement pollué, c'est souillé, c'est même des vêtements portés par des femmes pendant les règles et des choses comme ça. C'est très, très fort. C'est... Voilà, merci d'avoir souligné ça. Je peux te demander de terminer par une prière, si
oui. Merci Seigneur pour ce moment passé ensemble, Seigneur, devant ta parole. Je te demande vraiment de faire grandir cette parole en nous, Seigneur, et qu'elle nous accompagne toute la semaine. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es un Dieu saint. Et merci parce que tu nous juges avec vérité, Seigneur. Je te demande vraiment de nous accompagner les uns les autres dans ce retour, Seigneur, et de nous faire du bien toute la semaine et que nous puissions glorifier ton nom dans notre vie. Merci pour ton enseignement. Amen.
Amen.